Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial.
Vers l'infini et au-delà!
Lorsque l'eau vient à manquer, c'est le début de la sécheresse. Lorsque la sécheresse s'installe, c'est tout l'écosystème qui se transforme et la naissance du désert. Mais même dans les espaces les plus arides, la vie persiste, les plantes, les animaux s'adaptent à l'absence d'eau. Les êtres humains aussi déploient des stratégies pour occuper ces lieux inhospitaliers. Sable, roche, poussière, partons ensemble dans ces contrées de sécheresse et de chaleur extrême, vers l'infiniment aride. Et pour cette incursion dans le désert, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Léo Coulongeat. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes photographe à l'origine du projet From Desert et nous sommes en ligne avec Simon Taugourdeau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en agronomie et écologue au CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, mais pour plonger dans le désert, équipons-nous auparavant de l'indispensable distil.
Voyez-vous ? Ceci est un distil fabriqué par les Fremen, le modèle le plus performant sur Arrakis. Pour l'essentiel, c'est un filtre très efficace, avec système d'échange de chaleur. La transpiration passe dans une première gaine et va se concentrer dans une seconde. Un filtre élimine le sel. Marche et respiration fournissent le pompage nécessaire. L'eau recyclée par ce moyen circule dans des poches récupératrices. Et l'on peut ensuite boire grâce à ce tube fixé sur le cou. Urine et excréments se retraitent dans les cuissardes de la combinaison. Si jamais vous êtes en plein désert, n'oubliez pas, respirez par la bouche et expirez par ce tube nasal. Avec une tenue Fremen en état, vous êtes certain de survivre pendant des semaines. Même dans le désert profond, si.
Extrait du Dune, de l'adaptation du roman de Frank Herbert par David Lynch en 1984. Peut-être un commentaire libre ou dire que finalement le désert c'est ce lieu qui a énormément inspiré les artistes, qui est un lieu mythique, un lieu spirituel aussi, Léo Coulongeat.
Ouais, tout à fait, c'est une des caractéristiques qu'on retrouve un petit peu partout dans les déserts. C'est en fait le rapport à soi-même. Comme on va par définition dans des endroits où il n'y a rien, en fait on se retrouve très vite face à soi-même, dénoué d'un peu tous ces biens matériels, et du coup l'essence du désert c'est cette spiritualité. On retrouve aussi un peu dans toutes les religions du monde ce rapport à la spiritualité qui sont un petit peu tous passés pas par le désert. Quoi. Mmh.
Simon Taugourdeau, le désert c'est aussi l'un des derniers endroits où les êtres humains se sont aventurés, c'est littéralement un no man's land.
Oui, il faut bien définir les déserts parce qu'il y a différents types de déserts, il y a quand même des activités humaines dans de nombreux déserts, mais c'est vrai que c'est un des endroits où c'est le plus dur de faire des activités, que ce soit en particulier l'agriculture.
Qu'est-ce qui définit un désert alors précisément, Simon Taugourdeau ?
Bah en fait un désert c'est une zone aride, donc en fait c'est une zone où l'évapotranspiration est bien supérieure aux précipitations, donc c'est-à-dire c'est une zone où l'eau manque pour la vie, donc en particulier pour les plantes. Après il y a bien sûr différents types de déserts avec des niveaux d'aridité différents.
Comment vous le définiriez vous avec vos mots, Léo Coulongeat?
Alors il y a effectivement cette définition scientifique qui est le rapport avec l'eau, et il y a la définition aussi qui a un rapport avec l'espace où en fait quasiment rien ne vit et quasiment rien ne naît, que ce soit l'homme ou l'animal ou le végétal. Voilà.
On a l'image, quand on pense au désert, la première image qui vient à la tête, c'est d'immenses dunes de sable. Or finalement, les déserts de sable, c'est plutôt l'exception que la règle.
Ouais, en fait, 80% des déserts, c'est des roches. Bon, il se trouve que en fait, le sable, c'est ces roches qui se sont érodées au fil du temps et du vent. Mais la caractéristique principale du désert, c'est des plaines de roches vides où on ne voit rien, ou la même chose plutôt.
Simon Taugourdeau, sur ces natures du désert, le désert de sable une fois de plus, outre les magnifiques dunes que l'on peut trouver notamment dans le désert du Sahara, le désert c'est finalement très très rarement une fois de plus du sable quoi.
Oui, c'est ça. Et puis, et en fait, ça dépend de l'érosion. Il y a aussi des déserts qui sont semi-arides où finalement, en fonction de la période où on va, on peut avoir de la végétation quand même. Donc, il y a des gradients et des différents types de déserts.
Quand on pense au désert, on pense évidemment également à la chaleur, Simon Taugourdeau, mais l'aridité, ça peut aussi qualifier des écosystèmes froids.
Oui, il y a des écosystèmes où quand l'eau est gelée, donc du coup c'est assez aride, mais il y a aussi des déserts où il y a des grandes variations de température. Normalement, les déserts en Asie centrale où il peut faire moins 40 en hiver et plus 50 en été, donc avec des grandes variations de température. Il faut aussi savoir que le vent peut aussi créer de l'aridité, donc dans les zones très venteuses, ça peut aussi entraîner cette aridité.
C'est vrai quand on pense à l'Antarctique notamment, mais puisqu'il y a de la neige, on se dit de la neige, c'est de l'eau, donc ce ne sont pas des endroits qui devraient correspondre normalement à l'idée que l'on se fait de l'aridité. Or, l'Antarctique est une zone extraordinairement aride.
Oui, parce que exactement ça. Quand on parle d'aridité, on parle d'eau disponible pour les plantes, et donc quand l'eau est gelée, les plantes ne peuvent pas accéder à cette eau-là. Et de plus, c'est vrai qu'il y a des zones, par exemple dans certaines montagnes, des zones comme l'Antarctique, où les précipitations sont très faibles. Et donc voilà, la vie n'est pas possible parce que l'eau n'est pas accessible aux plantes.
Comment est-ce qu'on définit précisément, Simon Taugourdeau, l'aridité? Est-ce que l'aridité, c'est la même chose que la sécheresse, par exemple?
Non, je pense l'aridité c'est quelque chose qui est donc qui définit un climat, donc c'est quelque chose qui est tout le temps pareil, alors que la sécheresse c'est plus des événements ponctuels. Et en fait c'est vraiment l'aridité, c'est de dire bon bah voilà, dans cette zone-là la quantité d'eau qui est évapotranspirée est très très forte par rapport à la quantité d'eau qui pleut. Et dans ce cas-là, les plantes doivent s'adapter parce qu'elles ne peuvent pas transpirer normalement.
Aridité contre sécheresse, ce sont, on peut dire que tout ce qui est aride est sec, mais tout ce qui est sec n'est pas aride en fait, Léo Colonja.
Ouais. Et il y a, enfin, pour rebondir un peu sur les définitions, il y a aussi des zones assez intéressantes où il y a des déserts côtiers, où il y a d'autres phénomènes climatiques qui rentrent en jeu, par exemple des courants froids d'eau, par exemple en Namibie ou au Chili, qui vont assécher notamment le désert d'Atacama, qui est très connu, qui vont assécher, qui il y a aussi la cordillère des Andes qui bloque, et en fait donc c'est tout un système climatique plus complexe qui fait que les déserts se créent et sont aussi divers et variés de par d'autres phénomènes autres que juste la latitude.
Racontez-moi, vous qui avez parcouru, Léo Coulonja, un certain nombre de déserts pour prendre des photographies, pour faire ce projet dont vous allez d'ailleurs nous parler, From Desert et cet atlas des déserts. Quel est le désert qui vous a le plus marqué? Quel est celui auquel vous êtes le plus attaché? Quel est celui qui est le plus dépaysant, le plus spectaculaire selon votre expérience?
Visuellement, le désert du Wadi Rum dans le Jordanie m'a beaucoup marqué. C'est des gros monolithes de blocs. C'est beaucoup de films où ils représentent Mars sont tournés là-bas. Donc c'est assez fantastique et l'expérience avec les Bédouins là-bas est très forte. On dort dans des camps sous ces énormes monolithes. Et sinon, l'autre expérience très humaine et très forte, ça a été l'Iran, où c'est des déserts très reculés aussi, et où on est intégré dans cette culture iranienne assez incroyable. Loin de tout ce qu'on voit dans l'espace médiatique, des dangers et des particularités de l'Iran. C'est un peuple très accueillant et les déserts sont vraiment fabuleux, où il y a assez peu de monde. Et ça a été une très belle expérience.
Ce qui est très impressionnant dans le désert du Wadi Rum, c'est que il y a très très longtemps, tous ces grands monolithes étaient en fait sous l'eau. On est vraiment littéralement à un endroit qui était et qui hébergeait un océan et qui garde ses traces. Et donc on est dans cet espace qui est infiniment aride et qui pourtant a été pendant très longtemps immergé, et donc avec cette espèce de paradoxe intellectuel qui est que c'est un endroit totalement double.
Ouais, tout à fait. Et en fait, la plupart des déserts ont été il y a très très longtemps des mers, ensuite ça a été des lacs, ensuite ça a été des plaines, des steppes qui se sont asséchées au fur et à mesure. Et en fait, toute cette histoire remonte aussi. On retrouve notamment en Mongolie, il y a des falaises qui s'érodent, on retrouve tous les dinosaures qui ressortent. Enfin, c'est assez spectaculaire et fantastique. On se replonge dans l'histoire aussi quand on voyage dans les déserts, quoi.
Simon Taugourdeau, vous vouliez ajouter quelque chose?
Ouais, je voulais juste rajouter sur le fait que les montagnes aussi peuvent créer des déserts. Donc, c'est-à-dire qu'aussi, il y a un côté où, dans certaines zones, par exemple, sur les îles Canaries, où en fonction du vent, il y a une zone très humide et une zone très sec. Donc, c'est juste aussi rajouter ce côté-là, qu'il y a des déserts parce qu'il y a des montagnes.
Et je vais vous reposer la même question qu'à Léo Coulonja. Votre expérience du désert, quelle est-elle? Quel est ce moment ou cet espace que vous avez traversé qui, personnellement, individuellement, vous a le plus marqué?
Moi, donc j'habite au Sénégal, donc c'est une zone semi-désertique. Donc ce qui me marque le plus, en fait, c'est vraiment les différences entre les saisons, c'est-à-dire entre la saison sèche où on a l'impression qu'il y a rien, et du coup dès qu'il commence à pleuvoir, toute la vie qui revient. Donc c'est assez impressionnant de voir cette différence entre ces deux périodes où finalement on se dit bah il y a rien qui pousse, et puis juste après, dès qu'il y a des pluies, tout revient. Et donc cette adaptation de la vie au désert est quelque chose quand même d'assez impressionnant.
Pour revenir sur cette notion d'aridité, sur cette classification de l'aridité, vous l'avez dit l'un et l'autre, tous les déserts ne sont pas arides de la même façon, il y a différentes formes d'aridité, c'est ce que nous raconte notre archive du jour, c'est un extrait de l'émission Science, nous sommes sur France Culture en 1982.
Parmi ces régions arides, il y a toutes les gradations possibles, il y en a qui sont complètement désertiques, comme par exemple la majeure partie du Sahara, et puis il y en a qui sont arides, c'est-à-dire où il y a une petite végétation qui permet dans une certaine mesure le pâturage, mais qui ne permet pas une agriculture continue. Et puis, il y a des régions semi-arides, qui sont déjà des zones de transition, déjà beaucoup plus productives, vers les régions qui sont plus humides. Alors, il y a donc tous les cas de figure possibles. Alors, dans l'ensemble du monde, effectivement, ces régions sont très étendues. On peut dire, selon la classification que l'on fait, qu'il y a à peu près le tiers des terres émergées, qui sont des régions arides ou semi-arides. C'est donc très important, parce que le tiers des terres émergées, ça affecte peut-être une soixantaine de pays au moins.
Un tiers de la surface du globe est aride ou semi-aride, Simon Taugourdeau, c'est absolument considérable.
Oui, c'est ça. Ça dépend toujours des définitions, mais c'est vrai que même en France, il y a des zones méditerranéennes où on peut considérer que c'est en partie semi-aride, puisqu'il y a des longues périodes sans pluie, comme la zone méditerranéenne. Donc oui, c'est une zone très importante, avec aussi beaucoup d'enjeux, aussi bien sur les productions, les gens qui habitent là-bas. Voilà, donc c'est quand même des zones d'une très forte importance dans l'économie mondiale.
Cette notion de plus ou moins aride, de plus ou moins sec, c'est quelque chose dont on fait l'expérience quand on traverse les déserts, on se rend compte à un moment donné. J'étais à Atacama il n'y a pas très longtemps pour tourner un documentaire sur les grands télescopes du Chili, que vous pouvez entendre tous les matins à 7h20 tout au long de l'été. Et effectivement, le corps ne réagit pas de la même façon. On se rend compte quand on reste à Atacama, alors qu'il ne fait pas forcément extrêmement chaud, qu'on se déshydrate extrêmement, la peau change, le rapport au corps, à la sudation, tout ça est très différent et le corps réagit de manière très différente, Léo Coulonja.
Ouais, là. Une des premières choses dont on se rend compte dans le corps, c'est souvent qu'on a les muqueuses nasales sèches, donc on a des crottes de nez tout le temps. Et aussi quand on se blesse, on se rend compte qu'en fait les plaies s'assèchent et guérissent beaucoup plus vite. Et après on se rend compte assez vite avec les personnes qu'on rencontre qu'ils ont trouvé des stratégies pour un petit peu s'adapter, etc. Par exemple la technique de sudation au Maghreb avec le thé chaud. Ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on va là-bas, ils nous proposent du thé chaud alors qu'on a tous envie de s'asperger d'eau glacée. Et en fait, ça fait suer le corps. Et du coup, le vent vient rafraîchir ensuite le corps. Et c'est une technique beaucoup plus durable, en plus, qui rééquilibre le corps. Parce que comme le corps est à 37 degrés, il faut plutôt boire de l'eau chaude pour pas perdre d'énergie. Donc voilà, les personnes là-bas nous apprennent à vivre de manière plus cohérente avec cette chaleur. Et en fait, ça fait des centaines d'années qu'ils se sont adaptés à ça, quoi.
On parlera dans quelques instants justement des stratégies et de l'adaptation à la chaleur, mais comme on le disait tout à l'heure, et j'aimerais qu'on discute un peu de ça ensemble maintenant, notamment avec vous Simon Taugourdeau, effectivement le désert, l'aridité est synonyme de chaleur, mais le désert est aussi un endroit où il fait froid, et on classe d'ailleurs les déserts en deux grandes catégories, en désert chaud et en désert froid.
En fonction de, bon, déjà, comme il y a très peu d'humidité, très peu de nuages, il faut savoir que c'est aussi des zones avec une très grande différence entre le jour et la nuit. Donc, c'est sans doute là où il y a les plus grandes variations de température. Et c'est vrai qu'il y a des déserts, comme je disais tout au début, où là, il y avait des fois où l'hiver, il fait très très froid, moins 40, comme en Asie centrale. Donc, c'est vrai que ça change un peu les choses entre des déserts comme le Sahara où il fait toujours au moins une dizaine de degrés. Et par contre, des déserts où il peut faire très très froid parce que c'est des déserts continentaux.
Quels sont les déserts les plus froids? on pense au désert de Gobi notamment, qui est un désert où il fait effectivement, où on arrive à des températures négatives très très basses.
Oui, voilà, c'est surtout les déserts d'Asie centrale là, qui sont très loin de la mer et qui sont avec un climat très très continental, donc là il fait vraiment très froid.
Léo Coulonja, vous avez eu très chaud et aussi peut-être très froid dans le désert à la fois.
Ouais. Pour rebondir sur le désert de Gobi, j'y étais il y a un mois là, et il y a une zone assez particulière, donc j'étais en mai, qui est le début de l'été, où donc il fait, là c'était parfait, il fait 30 la journée et 0-10 la nuit, donc c'est raisonnable en termes d'écart de température. Et il y a une zone en fait montagneuse où même là, en plein été quand il fait 40 ou 30, en fait il y a un glacier à l'intérieur, donc on rentre dans une chaîne montagneuse et on se retrouve sous la glace en plein été, en plein cagnard, donc où ça se refroidit, mais du coup il y a on se rend compte qu'en fait on est dans un désert froid alors qu'il fait 40 degrés, et c'est ce qui caractérise effectivement tous les déserts, c'est cet écart extrême de température où parfois on a du mal à s'adapter quoi.
On pense aussi au désert d'altitude, à l'altiplano bolivien notamment, ou andin, où on retrouve notamment des déserts de sel où la température chute extrêmement bas et où là pour le coup il y a quasiment aucune vie. On est vraiment sur ces espèces d'immenses espaces qui sont vraiment extrêmement inhospitaliers.
Ouais, c'est notamment les salars, effectivement, c'est d'ailleurs des zones qu'on retrouve partout, en fait les lacs asséchés qui deviennent des zones de sel, et dans la particularité dans le plus grand qui est en Bolivie,
le salar de Uyuni,
c'est que la journée, ouais, on est dans cette zone blanche où la réflexion du soleil est extrême, donc c'est très très difficile. Il y a des ouvriers qu'on peut rencontrer qui travaillent là-bas, qui vivent dans des conditions aberrantes, et la nuit, dès que le soleil se couche, on perd des dizaines de degrés très très rapidement, et c'est assez rude à oui. voir et à vivre. C'est
Simon Togourdeau, on va revenir encore une fois dans quelques instants sur la vie dans ces différents déserts. On voit que la plupart du temps la vie s'adapte, mais précisément dans ces déserts de sel, même s'il existe un peu de vie, on commence à arriver vraiment aux extrêmes de la viabilité pour les organismes vivants.
Oui, là, c'est vrai qu'il n'y a pas que la chaleur et l'humidité. C'est vrai qu'il y a très peu de plantes et d'animaux qui sont adaptés à des conditions de sel très importantes. Donc, c'est vrai que souvent, il y a très peu de vie dans ces zones avec des fortes salinités. Donc, c'est un autre paramètre qui rentre en compte, qui n'est pas lié qu'uniquement à l'aridité.
Qu'est-ce qui fait, selon vous, Léo Coulonja, la spécificité, la différence, l'attrait ou la beauté d'un désert par rapport à l'autre?
Bah, déjà, il y a la végétation. Par exemple, en Australie, j'étais surpris de voir que c'est, ils appellent ça le bush, mais c'est un désert en fait où il y a énormément de végétation qui sont très secs, très sèches, contrairement à des endroits en Mauritanie où en fait c'est des plaines de roches pendant des centaines de kilomètres où il y a absolument rien. Et donc déjà, bah, en fait, le paysage visuellement ça change énormément. Ensuite, il y a les parties rocheuses. On retrouve un peu partout des zones de canyons, parfois gigantesques, on pense au Grand Canyon aux États-Unis. Et du coup, bah, c'est visuellement d'abord le paysage qui varie, quoi. Et après, bah, il y a effectivement les personnes qu'on croise qui se sont adaptées plus ou moins de la même manière et plus ou moins différemment aussi en fonction de la végétation qui pousse et de l'eau aussi qui est plus ou moins présente dans les nappes et qui est plus ou moins facile à accéder. Ouais.
Simon Togourdeau, quel serait, selon vous, justement, ce qui qualifie la nature, la spécificité d'un désert vis-à-vis de l'autre? Est-ce que ce sont juste des caractéristiques écosystémiques, biologiques, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui permet de qualifier, ou en tout cas de définir la spécificité de chacun de ces déserts?
Bah oui, c'est d'abord les conditions, donc ce qu'on appelle pédoclimatiques, donc c'est-à-dire à la fois le sol et à la fois les variations de climat. Après, il y a aussi des zones qui sont utilisées, donc ça veut dire où il y a un impact de l'activité humaine, alors qu'il y a des zones où par contre il y a très peu d'impact de l'activité humaine, donc on est plus dans des zones naturelles. Donc c'est vrai qu'entre des zones où il y a beaucoup de pâturage ou des parcs nationaux, on a aussi des végétations et des types de déserts qui sont différentes.
On va justement s'intéresser à ces organismes qui se sont adaptés à l'extrême aridité et, comme vous l'avez entendu, pas uniquement à la chaleur, mais parfois à des variations de température qui peuvent elles aussi être extrêmes. Et puis, on va s'intéresser bien entendu aux populations humaines qui ont réussi à dompter, à acclimater un peu ces endroits extrêmement arides. Ce sera dans quelques secondes. We'll be right back.
désert, il n'y a paraît-il aucune âme qui vive, seul le vent règne en maître. Des arbustes chétifs, si des sèches plaintifs, alors que serpents et vautours ont chien de faïence. Quelques roques se dorment à l'érosion du temps, vestiges de basalte blanc que le chinois dévore. Des crevasses sur le sol tracent le passage d'une mer jadis engloutie par les sables.
Le désert de Clarisse dans Infiniment, puisque nous explorons aujourd'hui l'infiniment aride en compagnie de Simon Taugourdeau, qui est chercheur en agronomie et écologie au CIRAD, et Léo Coulonjac, qui est photographe, notamment à l'origine du projet From Desert. On l'a dit, température, insolation, vent, absence d'eau, sol quasi stérile. La vie dans le désert n'est pas simple, mais la vie trouve toujours un chemin. Avant cela, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, Simon Taugourdeau, on vous l'avait dit, dans les déserts froid ou à hiver froid, on peut descendre jusqu'à moins 40. Est-ce qu'il y a un maximum de température dans le sens inverse de chaleur qui a été établi pour un désert en particulier?
J'ai pas le chiffre en tête, je pense qu'on peut dépasser au moins les 50 voire 60 degrés, je pense, facilement. Après ça dépend, parce que c'est dans les déserts, une des caractéristiques c'est qu'il n'y a pas d'ombre, donc c'est vrai que quand on mesure la température à l'ombre, c'est un peu compliqué dans le désert.
Léo Coulonja?
Ouais, alors du coup moi je m'étais renseigné un peu là-dessus. En fait, il mesure deux principales choses, il y a la température de l'air et la température au sol. La température de l'air la plus chaude, ça a été 56,9. Donc ça, là en ce moment, bah forcément avec la désertification, ça, tous les ans on bat les records, mais c'était dans la vallée de la mort il y a un moment, il me semble que c'est en Iran maintenant. Et ensuite il y a la température au sol, et là du coup je suis allé moi sur le plateau, en fait j'y étais 6 mois avant que le record soit battu en Iran. C'est un plateau de grès noir, enfin volcanique. Et du coup il nous expliquait qu'il fallait pas y aller parce qu'en fait les chaussures fondaient sur la plaque de roche noire.
Ouais. Et on sur des températures au sol, il y a des,
c'était 74 degrés, oui, quelque chose comme ça.
Il y a même des températures qui ont été mesurées jusqu'à 80. Yep. Alors Simon Taugourdeau, justement, la sécheresse, l'aridité empêche la végétation de pousser, ce qui accentue du coup l'effet du vent et la chaleur au sol, comme on vient de le dire, ce qui accroît encore la sécheresse. C'est ce qu'on appelle en fait une boucle de rétroaction positive.
Oui, enfin dans ce cas-là, c'est des effets négatifs. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, le fait que les plantes disparaissent va entraîner une désertification à force, parce qu'il faut aussi savoir que la végétation peut maintenir du sol qui permet de maintenir de l'eau, des choses comme ça. Donc c'est vrai que quand on a un processus de désertification qui se lance, c'est très dur de l'arrêter. Et il faut souvent avoir des actions humaines pour pouvoir remettre de la végétation et donc repermettre de mettre la zone en désert un peu moins important.
Mmh. Quelles sont les stratégies qu'adopte, alors on peut commencer si vous voulez par la végétation, mais comment finalement malgré cela et malgré ces conditions et malgré cette boucle de rétroaction, quelles sont les stratégies que les plantes ont développées, les végétaux au cours de l'évolution pour malgré tout continuer à exister puisqu'il y a malgré tout une certaine forme de végétation dans les différents déserts?
En fait, il y a deux stratégies principales. Il y a la stratégie qu'on appelle d'évitement, donc ça veut dire c'est des plantes qui vont, qui sont des éphémères, donc des plantes annuelles qui, dès qu'il y a une pluie ou quelques pluies, vont germer, faire leur cycle, c'est-à-dire faire très rapidement faire des fleurs et des fruits, puis du coup faire des graines. Et donc en fait, elles sont présentes uniquement quand il y a des pluies. Donc par exemple dans les milieux semi-arides, comme par exemple au Sahel où on sait qu'il y aura des pluies entre juin et octobre, les plantes vont très rapidement faire leur cycle et puis après elles vont devenir des graines. Et après, il y a une autre stratégie qui est plutôt une stratégie de tolérance, où là, c'est des plantes avec différents mécanismes qui peuvent supporter les périodes sèches. Donc, par exemple, on peut penser aux cactus, à certains acacias, des choses comme ça, avec des stratégies différentes qui consiste à surtout à maintenir de l'eau dans la plante pour pouvoir tenir la période sèche.
Cette stratégie, notamment sur les plantes, ça a effectivement modifié l'évolution et la résistance des graines qui peuvent rester des graines pendant de très longs mois, voire quelques années, et n'éclore effectivement que quand d'un seul coup il y a des précipitations. Ça donne notamment ce phénomène dans le désert d'Atacama qu'on appelle le desierto florido, le désert fleuri, où d'un seul coup, juste après une pluie, bien l'intégralité du désert se recouvre de petites fleurs rose, et c'est un spectacle extrêmement saisissant, Simon Togordo.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est vraiment dès qu'il pleut, dans ce cas-là, en plus, comme c'est des pluies très aléatoires, les plantes elles vont directement fleurir, alors que dans d'autres déserts, comme les pluies elles sont moins aléatoires, donc dans les zones semi-arides, là, les plantes elles vont quand même mettre quelques temps avant de fleurir pour croître un peu. Mais oui, c'est là qu'on voit que c'est très adapté, parce que c'est des plantes, enfin, c'est des espèces adaptées, parce que les individus ne supportent pas la sécheresse, mais l'espèce peut quand même survivre dans ces milieux.
Et est-ce qu'il y a, en fonction justement du niveau d'aridité, des déserts qui interdisent totalement, complètement et quasi intégralement la présence de végétation, sauf peut-être à échelle extrêmement faible ou presque microscopique, Simon Togourdeau?
Bah ça dépend surtout de la régularité des pluies. Donc c'est vrai que même dans le désert d'Atacama, là, qui est un des plus secs du monde, quand il pleut, il y a des végétations qui poussent. Après, c'est vrai que c'est sur une période très très courte dans l'année, donc il y a très peu d'endroits. Après, c'est vrai qu'on tout à l'heure on discutait des déserts salés, où là c'est plutôt le sel et la salinité qui posent problème plus que la sécheresse. Et dans ce cas-là, là il n'y a pas de végétation. Et sachant aussi que un des facteurs pour avoir de la végétation, c'est la possibilité pour les plantes de s'enraciner. Et donc c'est vrai qu'on a un sol très rocheux, donc c'est un autre facteur qui joue. Les plantes ne peuvent pas pousser puisqu'elles ne peuvent pas faire de racines. Donc là, c'est plutôt le type de sol qui fait qu'on n'a pas de végétation.
Et du côté de la faune, quelles sont aussi les stratégies? Il y a malgré tout des espèces. Alors, on pense évidemment plutôt aux petits vertébrés ou éventuellement à certains reptiles, mais il n'y a pas que ça. Le désert abrite aussi, sans parler évidemment de certains insectes, le désert a néanmoins un certain nombre d'espèces qui y vivent, même si elles sont rares et même s'il y a peu de diversité. Elles sont bel et bien là, Simon Togourdeau.
Oui, et du coup c'est un peu la même chose. On a donc des espèces qui sont, éphémères, dans le sens où par exemple les insectes, qui dès qu'il pleut, elles vont se reproduire, enfin devenir des adultes, manger la végétation qui est là, faire des larves qui vont rester en hibernation le temps que les pluies sont absentes. Et après on a aussi des stratégies de tolérance, donc des animaux qui vivent plutôt la nuit pour éviter la chaleur, qui ont des terriers, des choses comme ça. Et la dernière possibilité d'adaptation des animaux qui n'existe pas chez les plantes, c'est les migrations. Donc on peut penser aux grandes migrations des grands herbivores en Afrique, par exemple la migration des gnous, où là les animaux vont suivre les distributions des pluies. Donc c'est une forme d'adaptation, qui est une adaptation qui a été prise par les hommes pour leur élevage.
Oui, alors on va reparler de l'élevage dans un instant. Léo Coulongea, au fur et à mesure de vos explorations du désert, vous avez fait quelques rencontres avec cette faune désertique ou cette faune des milieux arides, qui n'est pas forcément toujours d'ailleurs très accueillante.
Non, ouais... Donc dans beaucoup d'endroits, il y a effectivement assez peu d'animaux visibles, à part en Afrique du Sud ou en Namibie notamment, où là il y a beaucoup de grands mammifères encore qui persistent. Mais la plupart du temps, effectivement, il faut se baisser, attendre un peu, et on observe des petits insectes de temps en temps, et parfois des scorpions ou des serpents. On observe aussi, enfin, sur les dunes, il y a des animaux assez spectaculaires qu'on peut voir, qui arrivent à capter l'humidité avec leurs ailes. Ils déploient leurs ailes en haut des dunes et à un certain moment de la journée, ils arrivent à capter l'humidité. Donc en faisant attention et en prenant le temps, on arrive à observer ces petits animaux.
Ces montants gourdeaux, il faut souvent aussi, ces animaux profitent de la légère humidité qu'il peut y avoir justement à cause des différences thermiques et notamment la rosée du matin qui est une source d'eau, même si elle est faible, ça reste une source d'eau qui est exploitée justement par cette faune.
Oui, en effet, ça permet d'avoir quelques millimètres de pluie et donc c'est aussi là où les animaux s'adaptent en sortant tôt le matin pour récupérer cette eau. Et puis après, ils vont se mettre à l'abri pour éviter les pertes en eau comme dans des terriers ou dans le sol où là, il y a moins d'aridité finalement.
L'autre faune dont il faut parler et qui est essentielle et qui est notamment essentielle aux êtres humains pour occuper le désert, c'est la faune d'élevage et notamment les camélidés qui sont absolument nécessaires à l'être humain pour réussir à s'implanter durablement dans ces zones arides.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que donc c'est une espèce qui est très adaptée aux zones arides, en particulier sur le fait qu'elle n'a pas besoin de boire à des battants très réguliers, contrairement aux autres animaux d'élevage. Donc c'est là pour ça qu'elle a été utilisée aussi pour faire le commerce, hein, c'est-à-dire les fameuses caravanes qui allaient du nord de l'Afrique jusqu'en Afrique subsaharienne. Donc c'est vrai que le chameau et les dromadaires sont les animaux les plus adaptés à ces conditions. Mais il y a aussi des gens qui font de l'élevage de moutons, de chèvres ou même de bovins dans ces zones un peu désertiques.
Et cet élevage, ça fait partie pour le coup des stratégies d'adaptation nécessaires à l'être humain pour peupler ces zones.
Oui, sachant que c'est un élevage un peu particulier parce que c'est un élevage souvent transhumant, donc ça veut dire que les gens ne sont pas propriétaires de la terre et donc en fait ils se déplacent vu qu'aussi une des caractéristiques des déserts c'est que les pluies sont assez régulières dans l'espace et donc en fait quand il y a une zone où il pleut ils vont se déplacer pour avoir accès au fourrage à cet endroit-là et puis après ils vont aller dans une autre zone et ainsi de suite, donc c'est vrai qu'il y a ce côté donc du pastoralisme où les animaux vont se déplacer en fonction des pluies.
Ce nomadisme, on dit en tout cas qu'il recule, qu'il est de plus en plus difficile. On va parler dans un instant de l'influence du réchauffement climatique sur les déserts qui est aussi réel. C'est aujourd'hui, selon votre expérience et vous, vos voyages, est-ce que vous avez pu voir les Okulonja de plus en plus vrai? Ces populations sont vraiment fragilisées aujourd'hui?
Oui, c'est un peu la catastrophe des déserts. C'est les périodes de plus en plus longues sans pluie. Donc maintenant, c'est dans beaucoup d'endroits, c'est 5 ans sans eau. Et en fait, du coup, ça dissémine les troupeaux qui parfois décèdent en masse tout d'un coup par un espèce de phénomène de réchauffement. Et du coup, ben, les personnes déjà, où c'est des périodes quand même des modes de vie très difficiles où il faut s'occuper de centaines d'animaux. S'ils perdent quelques animaux, c'est juste plus vivable et du coup là, ils ont tendance à en fait juste migrer vers ces dernières villes là qui commencent à naître un peu partout dans les déserts ou tout simplement aller dans les plus grosses villes, mais en perdant toute leur culture, etc. Donc c'est juste des choses que ils essaient de repousser au maximum, quoi.
Là aussi peut-être on imagine un peu contre-intuitif et pourtant Simon Togourdeau, les déserts sont des milieux très vulnérables au réchauffement climatique.
Oui, en particulier donc sur le fait que les pluies sont très aléatoires et donc en fait le moindre changement qui est lié au réchauffement climatique peut induire un changement dans les patterns. Et puis une des caractéristiques du changement climatique, c'est une augmentation de la température et donc une augmentation de l'aridité, mais aussi des contraintes vis-à-vis des personnes qui y habitent et des animaux d'élevage.
Vous disiez notamment par exemple dans un désert que vous connaissez bien, Simon Togourdeau, au Sahel, il y a aujourd'hui eu un fort décalage de l'arrivée des pluies. Elles arrivent plus tard et donc ça déséquilibre beaucoup ces écosystèmes qui sont malgré tout des écosystèmes très fragiles.
Ouais, c'est vraiment une des caractéristiques, c'est qu'on se rend compte que les pluies sont de plus en plus tardives et en fait les plantes elles sont adaptées à fleurir à une certaine date, donc en fait ça a des conséquences. Et puis aussi les conséquences, c'est que pour les animaux, vraiment la fin de la saison sèche est l'endroit le plus dur parce que les animaux ils peuvent perdre entre 20 et 30% de leur poids durant cette saison. Et donc en fait le moindre retard même de quelques semaines dans les pluies fait qu'ils ont de la nourriture plus tardivement et ça peut entraîner des mortalités assez fortes. Donc cette zone qu'ils appellent la soudure parce que c'est vraiment l'endroit où ils ont besoin d'avoir de la nourriture pour leurs animaux.
Le réchauffement climatique a également cette autre conséquence qui est que le désert progresse, de plus en plus de zones semi-arides deviennent de plus en plus arides, les zones arides deviennent hyper arides, il y a une sorte de décalage global de ces écosystèmes vers l'aridité, Simon Togourdeau.
Oui, alors après, ça dépend des zones, parce que des fois aussi le réchauffement climatique va induire plus de pluie, parce que ça entraîne plus d'évaporation. Mais oui, ça peut entraîner une désertification qui est aussi liée à d'autres paramètres qui peuvent être liés à la surutilisation de la végétation, par exemple par les animaux d'élevage, choses comme ça. Mais oui, c'est un enjeu. Il y a même une COP, donc équivalente à la COP sur le climat, qui a eu lieu il y a pas longtemps sur la désertification à Abidjan, où justement les États commencent à essayer de voir comment ils peuvent agir pour limiter les impacts de cette désertification.
Et alors, comment est-ce qu'on agit pour justement limiter les impacts de cette désertification?
Pour l'instant, une des solutions qui avait été mise en place, là, c'est ce qu'on appelle la grande muraille verte, où c'est une idée de planter des arbres pour essayer de limiter, parce qu'en fait, comme on le disait tout à l'heure, le fait de rajouter des arbres dans le système va maintenir le sol, permettre d'avoir de l'évaporation de ces arbres, et donc de limiter un peu l'impact du désert, sachant que ça, il y a beaucoup de problèmes, et c'est pas encore totalement facile à faire pour des points de vue techniques, mais aussi il faut aussi penser qu'il y a des gens qui habitent et il faut prendre en compte la volonté des personnes qui habitent. On peut pas les exclure de ces zones pour planter des arbres, et donc il faut aussi avoir toute une partie de discussion avec les habitants de ces zones arides pour permettre de mettre en place des systèmes de lutte contre la désertification.
Et on en parlait tout à l'heure au début de cette émission, Léo Poulonja, le désert comme l'océan est aussi une zone, pour les raisons que l'on imagine, qui est extrêmement sensible à la pollution et qui finit par devenir, dans certaines zones, des dépotoirs littéralement de matière plastique, notamment à ciel ouvert.
Ouais, le problème dans les déserts, c'est qu'en fait, il n'y a rien pour arrêter les déchets des populations ou des touristes. Et du coup, en fait, le vent va transmettre les déchets partout dans le paysage. Et en fait, la caractéristique, c'est que normalement, les déchets disparaissent naturellement avec la pluie.
Se décomposent en tout cas.
Se décomposent, ouais. Et là, c'est pas le cas. Donc, on se retrouve dans des zones, notamment au Sénégal, je pense que Simon pourra témoigner mieux que moi, mais on a des zones extrêmement polluées.
Simon Togourdeau, sur cette pollution qui est vraiment, vraiment problématique.
Oui, c'est ça aussi. En fait, ça dépend aussi de la densité de population. Et par exemple, c'est vrai que le Sénégal est, pour une zone semi-aride, est très densément peuplée, donc du coup ça crée des déchets. Mais oui, c'est un problème assez fort, parce que ça se déplace avec le vent, et ça se dégrade pas parce qu'il n'y a pas de pluie, et donc c'est assez problématique, et il y a des zones très abîmées par ça.
Vous disiez aussi, et c'est assez surprenant, Simon Togourdeau, que il y a paradoxalement aujourd'hui assez peu de données sur les zones arides qui sont finalement relativement peu étudié. Comment est-ce que vous expliquez ça?
Oui, ça dépend, parce que déjà ça pose des questions de distance, d'organisation. C'est des pays aussi où la recherche n'est pas forcément une priorité, donc c'est aussi là où par exemple le CIRAD intervient. Donc on travaille dans les pays en voie de développement pour aider avec nos partenaires locaux à faire de la recherche pour produire des données. Et c'est vrai qu'il y a moins d'enjeux par exemple sur des systèmes de production comme des systèmes de production en France, où là il y a beaucoup de personnes qui y travaillent. Là c'est vrai qu'on est en train d'avoir un projet là pour essayer de comprendre l'impact de l'élevage sur le changement climatique, et c'est vrai qu'il manquait de données pour savoir combien par exemple les animaux émettaient de méthane, combien les sols du désert séquestrent de carbone, pour pouvoir avoir des vraies données pour être capable de faire le bilan carbone de ces zones.
Parce que les sols désertiques peuvent séquestrer du carbone malgré la très faible végétation et malgré l'aridité de surface.
Oui, un petit peu, parce qu'il y a quand même ça dépend, en zone semi-aride, il y a quand même un petit peu de végétation qui séquestre, il y a des arbres, donc il y a aussi, dans le bois, il peut y avoir un peu de carbone qui rentre. Et puis finalement, comme c'est des très grands espaces, il suffit que ça séquestre un tout petit peu par hectare. Comme on a des milliers d'hectares, finalement, quand on s'intéresse à la zone en entier, il y a un potentiel de séquestration assez important.
On arrive à la fin de cette émission. J'aimerais qu'on termine aussi sur l'adaptation humaine. Léo Coulonja, quel est le point commun que vous verriez, ou les points communs que vous verriez dans les différentes cultures du désert à travers le monde, qui peuvent être très distinctes, très variées? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez retrouvé dans ces populations du désert et qui serait un peu universel?
Oui, c'est la gestion de l'eau. Donc en fait, si nous, notre richesse, c'est l'argent, eux, leur richesse, c'est l'eau, et ça, c'est le plus important dans leur vie de tous les jours. Et on retrouve un petit peu partout dans le monde des techniques d'adaptation qu'ils ont inventées pour en fait récupérer l'eau de la manière la plus efficace, pour distribuer l'eau également. Je pense notamment à l'Algérie, par exemple, où il y a carrément un métier qui est né, où en fait c'est une personne qui construit des petits ponts dans les ruisseaux, enfin dans l'eau qu'ils récupèrent pour transmettre l'eau à toute la population, et du coup on a cette culture de l'eau qui est présentes partout. On retrouve aussi en Iran des techniques hyper inventives de puits qu'ils ont creusés et qui permettent de faire des réfrigérateurs naturels. Mm-hmm. Donc en fait, toutes les populations ont réussi à s'adapter et à trouver des manières de récupérer cette eau qui est vitale pour faire pousser des végétaux et vivre pour leur bétail ou pour directement consommer du végétal, quoi. Mm-hmm.
Si Simon Togourdeau, sur cette gestion de l'eau, cet apprentissage à vivre avec la chaleur, est-ce que là aussi il y a une forme d'universalité de la gestion de l'aridité par les cultures et les populations humaines?
Et puis je pense que pour rajouter dans les adaptations, il y a la mobilité, donc du fait que les gens se déplacent justement pour suivre les ressources et pouvoir s'adapter dans les périodes très difficiles. Donc il y a aussi ce côté-là où dans beaucoup de zones arides, il y a des populations, traditionnellement, mais encore maintenant, sont des populations nomades qui se déplacent avec l'eau.
Un dernier mot sur ces différents déserts. Aujourd'hui, le désert, vous l'avez dit, on en a parlé, on peut être visité, on peut se promener dans les déserts, il a été apprivoisé. Est-ce qu'il y a une façon, peut-être, Léo Coulonja, d'être au désert? On en parlait là aussi tous les deux pour avoir traversé quelques-uns des déserts. Le désert, c'est souvent des voyages qui sont propices à l'introspection, qui sont propices à la rêverie, qui sont aussi des moyens ou des moments où on se retrouve face à soi-même. Et c'est parfois assez impressionnant de se retrouver tout seul dans ces grands espaces qui évoluent peu après des jours et des jours de marche. Comment est-ce que vous conseilleriez de visiter, d'entrer pour nos auditrices et nos auditeurs dans ce désert? Est-ce qu'il y a une façon d'être au désert, entre guillemets?
Peut-être c'est se préparer quand on va voyager dans un désert à vivre quelque chose de différent et peut-être à chercher quelque chose d'intérieur. Moi, quand je voyage dans les déserts, je sais que je vais autant découvrir de choses de manière extérieure que personnelle. En fait, il y a des longs moments où on se retrouve face à soi-même. C'est le principe du désert. On est avec assez peu de choses et on se retrouve très souvent seul. Et du coup, un voyage intéressant, c'est de voyager pas uniquement pour se déplacer et de en prendre plein les yeux. C'est aussi de réfléchir à son mode de vie, sa consommation et s'inspirer de ce qu'on voit parce que on découvre des choses très éloignées de notre mode de vie, quoi. Mmh.
Simon Togourdeau, selon vous aussi, cet appel du désert à l'introspection, à l'économie, à repenser finalement notre rapport au monde?
Oui, pareil, c'est vrai que quand on voit les populations locales qui ont beaucoup moins de choses, qui ont un mode de vie très différent du nôtre, ça nous permet de nous mettre un peu en perspective par rapport à notre mode de vie.
Eh bien, il est temps de boire un grand verre d'eau fraîche et de revenir à des températures tempérées. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ces zones infiniment arides. Merci Simon Togourdeau, merci Léo Coulonja. Je crois qu'il y a bientôt un atlas des déserts qui sort. C'est pour quel mot?
Ouais, en le 2 novembre, sorti d'un livre photo qui va reprendre un petit peu tous les textes et toutes les images des différents déserts où j'ai voyagé.
Et ce sera aux éditions Hachette. Infiniment, c'est Eve Etienne, Alexandre Morales, Olivier Bétard, Jordan Fuentes et Dalia. Demain, on sort les bottes, les vêtements imperméables et on pénètre dans les zones les plus humides, des marécages et des zones inondées, emplies de mythes et d'hostilité, aux forêts tropicales où la pluie tombe sans discontinuer. Vers l'infiniment humide et au-delà.